Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Patience Ngaloula.
D'abord les titres de ce journal. Après la ville de Bukavu, la première ministre Judith Suminwa s'est rendue à Goma au Nord Kivu. Consciente de la situation précaire que traverse cette province, elle a promis d'apporter des solutions aux problèmes notamment sécuritaires et humanitaires qui minent le Nord Kivu afin de permettre le retour des milliers de déplacés dans leur milieu. Campagne de prévention et de dépistage du cancer des cols de l'utérus à Kinshasa. L'hôpital Monkolé prévoit le lancement le lundi 1er juillet. Pendant 12 jours, cette campagne va donc permettre de vérifier la présence du virus et de ses lésions moyennant 2 dollars. Et s'il y en a, elles seront traitées moyennant 3 autres dollars. Patience Tsai, chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, est l'invitée de ce journal. Dans le cadre de son appui à la stabilisation à l'est de la RDC, la mission onusienne a remis hier mercredi une infirmerie à la prison urbaine de Beni Kangbay. Elle évoque les contours de cet appui et plus globalement de la problématique des prisons en RDC. Bonjour. La ville de Goma, au Nord Kivu, est choisie comme la deuxième destination officielle de la première ministre après son investiture. Province secouée par les crises sécuritaires et humanitaires à la fois, où l'on compte à ces jours plus de 2,7 millions de déplacés internes. La chef du gouvernement dit venir réconforter cette population meurtrie et lui redonner de l'espoir. Après la réunion avec le membre du Conseil provincial de sécurité, Judith Suminwa s'est adressée à la population au gouvernorat de province. Elle promet d'apporter des solutions aux problèmes notamment sécuritaires et humanitaires qui minent le Nord Kivu afin de permettre le retour des milliers de déplacés dans leur milieu. On l'écoute dans ses propos recueillis par Denise Lukeso.
C'est vrai, on sait qu'il y a des problèmes énormes. Avec les M23, qui avec le Rwanda, aucun état d'âme a tué leurs frères et sœurs. Mais il y a quand même les situations dans le Grand Nord, où on a les ADF, on a d'autres groupes armés, qui sont aussi des groupes armés locaux, et là ce n'est plus normal. Donc il faut vraiment qu'on voit comment on va adresser ces problématiques-là, tenant compte de leur contexte particulier. Mais la situation ne datant pas d'aujourd'hui. Il est important d'aller exhumer tous les problèmes pour pouvoir les faire remonter à la surface et voir comment on va pouvoir trouver les solutions idoines. On ne va pas faire de miracle. Je n'ai pas de baguette magique. Mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être en regardant les choses différemment, on peut arriver à trouver vraiment les pistes de solutions. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau de l'armée, le chef de l'État a pris un engagement ferme pour la montée en puissance de notre armée. Et c'est ce qui est en train d'être fait, qui a déjà commencé.
La mission de la première ministre à Goma prévoit aussi des visites de terrain. Notons que dans la suite de sa délégation, on note la présence du vice-premier ministre de l'Intérieur, du ministre d'État en charge du budget et des ministres de la communication et médias ainsi que celle des affaires sociales et humanitaires. Sur place au Nord Kivu, la situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires de Walikale reste alarmante depuis l'arrêt du trafic routier entre le chef-lieu de ces vastes territoires et la ville de Goma via Mushaki. Nous sommes dans les territoires de Masisi. La société civile tire la sonnette d'alarme et demande l'implication des autorités. Les points avec Gabriel Ouamenya.
Deux facteurs exacerbent cette situation selon le président de la coordination territoriale de la société civile. L'arrêt du trafic entre Goma et Walikale à la suite de l'occupation de la cité de Mushaki par les rebelles du M23, mais également les délabrements très avancés de cet axe routier. Fiston Missona affirme que quatre groupes armés font la loi sur une vaste étendue de ce territoire. Ces miliciens font payer des taxes illégales aux voyageurs et imposent des travaux forcés aux populations dans les agglomérations qu'ils occupent.
Il y a des demandes d'argent ou des jetons, taxes illégales auprès de la population. Aussi, il y a des arrestations arbitraires.
Des affrontements récurrents surviennent parfois entre ces miliciens aux grandes dames de la population sur les plans humanitaires. Hormis les MSF Hollande, toutes les organisations humanitaires se sont désengagées de la zone suite à l'insécurité et à l'inaccessibilité dans leur zone d'action. Plus de 20 malades qui ne nécessiter une évacuation médicale sont décédés sur place à Walikale Centre depuis le début de cette année. Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Kapi.
Et puis, sachez que deux autres soldats sud-africains ont perdu la vie dans une attaque à Sake dans le Nord Kivu. L'attaque au mortier de la base du contingent sud-africain déployé à Sake a eu lieu mardi et a fait 20 blessés, dont 4 graves. Le communiqué de la force de défense sud-africaine qui confirme cette attaque affirme que les blessés sont pris en charge dans un hôpital, tandis que les blessés légers devraient bientôt sortir de l'hôpital. Les familles des deux victimes ont été informées et toutes les procédures pour rapatrier leurs dépouilles sont en cours. Rappelons que ce contingent sud-africain fait partie de la force de la SADC déployée au Nord Kivu pour appuyer l'armée congolaise dans la guerre contre les rebelles du M23 appuyée par les Rwanda. C'est la énième attaque contre la force sud-africaine enregistrée dans la région de Sake et qui a coûté la vie à plusieurs militaires. L'armée congolaise est-elle prête à combler les vides de la MONUSCO après son départ de la RDC? La question est au centre d'un atelier de réflexion qu'organise le mécanisme national de suivi sur les 25 ans de la mission onusienne sur les sols congolais et pour pérenniser ses acquis. Débuté mardi à Kinshasa, ce forum de 3 jours se clôture ce jeudi. Il réunit des délégués de plusieurs institutions qui évoluent dans la réforme du secteur de sécurité tels que la MONUSCO, les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS et les réseaux pour la réforme du secteur de sécurité et justice RRSSJ. Miradine Fouengi dans ses reportages.
Pour Emmanuel Kabengele, coordonnateur du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice, le retrait de la MONUSCO est un problème délicat, complexe et risqué dans des zones de conflits armés. Il met en exergue les principaux enjeux du retrait de la mission onusienne.
Il y a d'abord l'enjeu financier, mais il y a également l'effondrement sécuritaire. L'accessibilité à certains endroits que les avions commerciaux ne savent pas nous amener. Avec ce départ, qu'est-ce que le gouvernement congolais a fait en retour pour pouvoir combler ce vide?
Emmanuel Kabengele formule par ailleurs quelques recommandations au gouvernement congolais pour éviter, selon lui, quelques soucis après le départ de la MONUSCO.
Le gouvernement congolais saute le moyen qu'il faut pour reformer le secteur de sécurité et renforcer les capacités des forces armées et de la police nationale congolaise de manière à assumer ces tâches de la sécurité de personnes et de leurs biens ainsi que de la défense du territoire.
Le désengagement de la MONUSCO ne doit pas être une course à la montre, mais une course vers l'atteinte des conditions minimales fixées par les différents accords, déclare le coordonnateur du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice.
En Ituri, environ 1500 militaires des FARDC, dont une centaine de forces spéciales, ont achevé hier mercredi la première phase des formations sur les techniques de combat, surtout dans les zones difficilement accessibles. L'objectif de cette formation, assurée par les différents contingents de la MONUSCO, est de renforcer leurs capacités pour combattre les groupes armés actifs dans cette province. La cérémonie de clôture a été présidée par les commandants intérimaires des forces de la MONUSCO, accompagné du gouverneur des provinces, Isaac Remoyope.
C'est avec ces chants de victoire contre l'ennemi sur le terrain que les militaires ont célébré la clôture de cette formation qui a duré environ 3 semaines au centre des Tseré à la périphérie de la ville. Environ 1500 militaires venus de Kamina ont appris des notions sur les techniques de combat, surtout dans un environnement difficile qui nécessite parfois les déploiements par hélicoptère. Après les exercices de démonstration, le gouverneur s'est dit satisfait car ses soldats sont désormais capables de faire face à tous les défis dans les zones de combat pour défaire l'ennemi, le général Johnny Luboya.
Vous venez de former nos enfants pour qu'ils sachent neutraliser les ennemis. Ne nous faites pas la honte, car vous êtes bien entraînés, capables de répondre à toutes les missions vous confiées par votre commandant.
Le commandant intérimaire des forces de la MONUSCO a déclaré que ces militaires ont la responsabilité de sauvegarder la sécurité nationale, le général Djoufkar.
J'ai la ferme conviction que vous serez désormais en mesure de relever de plus grands défis dans les jours à venir. Vous portez une responsabilité unique. Vous êtes l'avant-garde de la sécurité de la nation et les gardiens de la paix et de la stabilité.
Les deux autorités militaires ont exhorté ces bataillons à faire preuve de discipline sur le terrain et à respecter certaines valeurs dont l'intégrité et le dévouement. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Parlons santé avec cette campagne de prévention et de dépistage du cancer du col de l'utérus à Kinshasa. Il sera lancé par l'hôpital Monkolé dans la commune de Mongafula à partir du lundi 1er juillet. C'est pour 12 jours. Selon les organisateurs, chez les femmes atteintes de cancer en RDC, c'est celui du col de l'utérus qui tue le plus. Pourtant, il est possible de soigner ces signes précurseurs que sont les lésions précancéreuses pour qu'elles ne se développent pas en cancer. Cette campagne va donc permettre de vérifier la présence du virus et de ses lésions, moyennant 2 dollars. Et s'il y en a, elles seront traitées, moyennant 3 autres dollars. Et c'est tous les jours, sauf dimanche. La gynécologue Céline Tendobi explique les causes de ces cancers. Elle appelle aussi les femmes à y aller nombreuses. Suivez.
La principale cause à plus de 90% des cancers du col utérin est le papillomavirus humain. Ce virus est transmis par voie sexuelle. À côté de ces virus, il y a des facteurs de risque comme l'usage abusif d'alcool ou de tabac, l'usage prolongé des contraceptifs oraux, la précocité des rapports sexuels ou la multiplicité des partenaires, l'usage des plantes médicinales pour l'hygiène intime. La présence du virus peut causer des lésions précancéreuses au niveau des cellules du col de l'utérus. Et cela peut prendre environ 10 ou 20 ans. Et c'est le temps nécessaire pour détecter ces lésions, les soigner à temps et éviter que la femme ne développe les cancers du col. Nous invitons toutes les femmes entre 25 et 65 ans à venir faire les dépistages du cancer du col au centre hospitalier Monkolé sur l'avenue Monkolé numéro 10 à partir du 1er juillet jusqu'au 12, tous les jours de 8h à 17h.
Santé toujours, le vitiligo est reconnu comme un problème de santé dans la province du Haut-Katanga. L'annonce a été faite mardi à Lubumbashi par le ministre provincial de la Santé à l'occasion de la Journée internationale du vitiligo. Cette maladie est caractérisée par la dépigmentation de la peau. Elle se manifeste par des taches blanches sur diverses parties du corps. Pour la présidente de l'Association franco-congolaise du vitiligo, de nombreuses actions ont été menées, non seulement pour sensibiliser la population sur cette pathologie, afin d'éviter toute stigmatisation, mais aussi faire les plaidoyers auprès des autorités pour que les vitiligos soient considérés comme un phénomène de santé publique. Jean Gandou.
Yannick est un jeune étudiant d'une vingtaine d'années. Très souvent, il se promène avec des chemises manches longues pour cacher les taches qui couvrent ses bras. Il en est gêné et en a honte. Il croit que cette maladie est d'origine mystique car dans sa famille, il est le seul et l'unique à la contracter et en ignore même le nom. Suzanne, par contre, est une mère de famille. C'est après l'accouchement de son dernier fils qu'elle a constaté cette dépigmentation de la peau. À ce jour, ces taches se sont répandues un peu partout sur son corps, ce qui n'est pas sans conséquence car elle est sur le point de divorcer. Son mari ne la supporte plus. Il la soupçonne de s'être méconduite, ce qui lui brise le cœur. Il n'y a pas longtemps qu'elle a appris qu'elle souffrait du vitiligo. Et à l'occasion de la Journée internationale du vitiligo, le ministre provincial de la Santé dans le Haut-Katanga a indiqué que les cas du vitiligo deviennent préoccupants et il faut y accorder une attention particulière. Joseph Sambibulanda.
Le ministère provincial de la Santé du Haut-Katanga annonce officiellement la reconnaissance du vitiligo comme un problème de santé dans la province. Bien que non contagieuse, cette maladie peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie des personnes atteintes, tant sur le plan physique que psychologique.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Autre nouvelle, la torture ne doit pas demeurer l'infraction la plus récurrente en RDC. C'est en substance le message que l'ONG Akiza Binadam Mumanyema adresse à tout le monde, principalement aux autorités. Cette ONG lance cette interpellation en marge de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture célébrée le 26 juin de chaque année. Cette organisation invite les victimes de la torture à briser le silence en dénonçant cette pratique. Raphaël Upelele Lokenga, secrétaire exécutif de l'ONG Akiza Binadam Mumanyema est au micro de Florence Kizalunga.
Après 40 ans de l'adoption de ce texte-là, la torture reste encore une des violations vedettes ou récurrentes. Alors, ça doit nous interpeller tous, nous qui voulons que ce soit l'État, que ce soit la société civile, pourquoi nous continuons à vivre aux antipodes de ces instruments juridiques. Et pourtant, il y a un embellie législatif déjà. Voilà pourquoi nous devons mettre la main dans la pâte pour que chacun de nous puisse jouer sa partition, afin que la torture ne puisse plus continuer comme une infraction la plus récurrente dans notre province et dans notre pays, pourquoi pas. Aux victimes des porter plainte, de ne pas être silencieuse, et sinon les conséquences sont néfastes pour elles-mêmes ainsi que leurs familles. Voilà pourquoi nous devons aussi les persuader, nous devons les aider. Et nous qui avons de cette manière, malheureusement, les tortionnaires sont potentiellement les agents publics de l'État qui sont appelés à protéger la population et ses biens.
Vous le savez, c'est aujourd'hui que les finalistes du secondaire terminent la passation des épreuves de l'examen d'État. À cette occasion, le gouverneur du Nord Kivu interdit tout débordement et autres comportements qui frisent la délinquance après la sortie des salles d'examen. Le général-major Peter Chirimwami l'a dit dans un communiqué lu par son conseiller principal, le général Danny Yangba. Écoutez.
Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, informe les finalistes de toute sa juridiction qu'il est strictement interdit de déchirer les uniformes ou de se retrouver dans les débits de boissons en uniforme après la passation de l'examen d'État pour célébrer la fin des études secondaires. Les agents de l'ordre sont instruits de mettre hors d'état de nuire quiconque s'adonnerait à ces actes qui frisent la délinquance juvénile. À bon entendeur, un seul mot suffit.
Actualité internationale.
En Guinée, le colonel Sadi Ba Coulibaly, ancien chef d'état-major général des armées, est mort durant sa détention samedi 22 juin dernier. Il était détenu dans un lieu tenu secret. Il y a une douzaine de jours, voulais-je dire, seulement. Le 14 juin, le colonel Coulibaly avait été condamné par le tribunal militaire de Conakry à 5 ans de prison ferme pour désertion et détention illégale d'armes. Selon le procureur militaire, le haut gradé, qui était l'une des figures les plus connues de la junte du CNRD, est décédé à la suite d'un arrêt cardiaque.
L'invité.
Patience Saï, chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, est l'invité de ce journal. Dans le cadre de son appui à la stabilisation à l'est de la RDC, la mission onusienne a remis hier mercredi une infirmerie à la prison urbaine de Benikangbaï. Patience Saï s'entretient avec Marc Marofimbo pour évoquer les contours de cet appui et plus globalement de la problématique des prisons en RDC.
Madame Saï Patience, bonjour.
Bonjour.
Quel est le type d'appui que la MONUSCO apporte à l'administration pénitentiaire de la RDC pour aider l'État à humaniser davantage les prisons du pays?
La MONUSCO, à travers son unité d'appui à l'administration pénitentiaire, aide dans plusieurs domaines. Depuis l'entrée de la prison jusqu'à la sortie, je parle tout ce qui s'agit des infrastructures, de soins de santé, bien-être des détenus, même le personnel. Donc, il y a des fois même qu'on intervient dans des situations de malnutrition, des appuis ponctuels, parce qu'il y a des fois qu'on arrive à avoir les détenus qui sont décédés à cause de malnutrition. Donc, il y a des interventions en collaboration avec les partenaires comme CIC et autres. Et en plus de ça aussi, nous œuvrons dans le renforcement de la capacité du personnel, tout ce qui s'agit de leur réponse à la sécurité, et surtout dans le contexte de la protection des civils, parce qu'on note également que ce sont des détenus qui, au cas où ils arrivent à s'en sortir, bien s'évader, vont menacer quand même la sécurité de l'État. Donc c'est un aspect aussi capital pour nous. En plus de ça, on a un aspect de plaidoyer, où on fait en ce qui concerne la budgétisation pour s'assurer que les prisons ont assez de financement de fonds côté gouvernement pour pouvoir nourrir ou prendre en charge les détenus. Il y a aussi l'aspect de réinsertion sociale et même pourquoi pas les divertissements, parce que là il y a des jeux qu'on mène dans leur milieu pour pouvoir jouer, pour se distraire un peu. Et également il y a aussi les activités de formation professionnelle pour le détenu. Donc on a appuyé à l'élaboration des textes qui a été déjà même passé par le président en juin. Et donc, je pense que c'est un pas déjà franchi. On va continuer à appuyer à la mise en œuvre de la réforme du système pénitentiaire de la RDC. La seule chose qui n'a pas changé, c'est la sous-population carcérale. J'ai remarqué partout, pas seulement ici. C'est une prison conçue pour 100, maintenant elle héberge 1000 et plus. Donc c'est un interpel aux autorités judiciaires. Je pense que c'est un problème à résoudre d'une manière holistique avec tous les stakeholders de la chaîne pénale, parce que ça ne peut pas se faire par les pénitentiaires eux seuls. Mais ce qui a changé pour moi, je pense que c'est la sécurité, parce que les menaces existent, mais les attaques, on s'en parle. Parce qu'ils arrivent à quand même trouver des mécanismes de bloquer ces attaques. Vous allez voir qu'il y a les CCTV, il y a les caméras, donc on a quand même l'œil partout, même si le personnel n'est pas suffisant, mais on arrive à voir dans tous les coins. Il y a également l'aspect des décès. Avant, on enregistre les décès chaque jour, mais au moins ils arrivent à avoir quelque chose à manger qu'avant il n'y avait rien.
La plupart des prisons du pays connaissent les mêmes problèmes, carence d'eau, de nourriture, des médicaments, des lits, surpeuplement. Comment la Monisco œuvre-t-elle pour aider l'État à résoudre ces problèmes?
Moi je peux dire que comme on n'a pas un mandat exécutif, on a un mandat plutôt appui, donc on ne peut pas prendre les choses en main. D'ailleurs, on ne garde pas les prisons, mais on est là pour apporter appui, conseil et technique et pourquoi pas logistique, le quips. Mais la plupart des choses se fait à travers le plaidoyer et ça apporte des fruits. Je peux dire qu'un impact qu'on a eu, c'est quand le budget a été, je ne sais pas, c'était, ça fait déjà 3 ans, avec Madame Rose Mutombo, la ministre qui vient de partir. Le budget était vraiment minime, mais elle a pu augmenter à un niveau vraiment appréciable. Donc ça fait que le plaidoyer passe, c'est lent, ça prend du temps, il y a beaucoup à faire.
Alors, la prison est un lieu de correction pour des personnes qui ont enfreint les lois d'un pays. Comment travaillez-vous pour la réinsertion sociale des détenus une fois sortis de la prison?
Il y a une politique qui a été développée en collaboration avec le PNUD. Maintenant, c'est la mise en œuvre de cette politique. Parce qu'avant, c'était d'une manière ponctuelle qu'on intervient. Mais maintenant, avec cette politique, ça sera vraiment organisé et canalisé en sorte que, en essayant de faire une évaluation de province, on va dire que, OK, dans telle province, on peut faire telle activité parce qu'il y a le marché pour le détenu. Ils peuvent s'intégrer facilement. Ils vont trouver du travail. Et puis donc, ce sont des actions spécifiques dédiées aux provinces selon les matières primaires qui existe là-bas, mais aussi le besoin en tant que ressources humaines.
Patience Saïd, merci.
Merci beaucoup.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information, mise en onde par Billy Landry Beto, supervisée et coordonnée par Pele Kipela Mondo. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci de nous avoir suivis.